Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et Curium. Au programme, conquérir le vide. Et reportage sans limite. S-A-N-G, limite. Bonne écoute.
Conquérir le vide, le réel et nous, par Vincent Lambert, paru à l'été 2022 dans le magazine L'Inconvénient. J'écris parce que je suis fatiguée et parce qu'au bout de cette fatigue se trouvent d'étonnantes alternatives à la vie. Jonas Fortier, Courbure de la Terre. Le contraire du confinement, c'est une chose qui était là avant nous, comme un fleuve, le fleuve Saint-Laurent. Toi, as-tu eu la révélation de l'existence du fleuve? En 1915, Ernest Bilodeau, courriériste parlementaire, se promenait après souper, digérant son gigot, quand il a trébuché sur une chose immense. Car j'ai fait cette découverte. Il y a un fleuve à Montréal, un grand fleuve qui passe devant la ville. Mais comme c'est plus loin que la rue Craig, vous pensez bien que personne ne descend jusque-là. Il a fallu un détour de quelques mois par le 19e arrondissement pour que le fleuve puisse entrer dans l'œil de Gatien Lapointe à son retour de Paris. Rentrant dans le golfe, qui est encore la mer, j'ai été alerté, surpris, ému, ravi par quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'est cette chose, mais je commence à connaître son absence. Je sais que si cette chose venait à ne plus manquer sur Terre, l'économie mondiale s'effondrerait avec toutes nos envies et la civilisation roulerait enfin sur autre chose que la rareté, la peur de perdre. Si nous perdons le monde habitable, c'est qu'intérieurement, nous ne l'habitons pas. Nous l'avons déjà perdu. Ruminant là-dessus, je descends me couler un café. Au premier étage, ma blonde enseigne devant l'ordinateur. Les élèves ont droit à une histoire, la course de petits bateaux. J'entends « Babine découvrit le fleuve ». C'était la première fois. Il se tint devant l'immensité, tentant d'absorber ce qu'il voyait. Dans ces moments-là, on dirait que la réalité elle-même nous demande de la découvrir. Personne ne sait trop ce que c'est, la réalité. Elle semble avoir de l'humour. Elle semble apprécier qu'on la remarque. J'imagine qu'elle demande à être approchée comme elle est, puisqu'il faut l'approcher comme elle est pour la voir. L'autre soir, j'écoutais une amie me parler de son travail. Elle répond au téléphone. « Si vous n'allez pas bien, vous signalez un numéro et vous devenez, dans son vocabulaire, un appelant. » Elle me racontait tout ce qui amène les gens à appeler. Des fractures relationnelles, surtout, au travail, à la maison, à l'école, l'impression d'être un fantôme, de ne pas être vu, de ne pas être comme il faut, de devoir se corriger, d'être toujours à côté, pas assez ou trop, finalement. Si la réalité pouvait parler, elle en dirait peut-être autant. Elle ne serait pas triste pour elle-même, elle serait triste pour nous, qui la manquons. Dans tous ces appels, faisait remarquer mon ami, jamais il n'est question de la vie au-delà de ma vie. Ces personnes ne sont plus tellement au monde. Elles sont dans des histoires, les histoires de moi et des autres. Elles existent sans le monde. Elles n'ont plus d'énergie. Elles rêvent toutes d'exister plus ou de ne plus exister du tout, ce qui revient peut-être au même. Et pendant qu'elle parlait, je me reconnaissais. Moi aussi, j'ai un trouble de saturation. Je suis saturée de moi-même. Depuis l'adolescence, je veille à défendre et illustrer Vincent Lambert, à nourrir et corriger Vincent Lambert, à conformer la réalité au désir de Vincent Lambert. Entretenir cette personne est essentiellement mon travail. La dépense énergétique est colossale. Au niveau de la Terre, si tout le monde s'y met, je ne vois pas comment on pourrait rêver, par exemple, d'une communauté internationale. Comment une planète pourrait supporter la demande pendant quelques millénaires encore? Est-ce bien ce qu'on appelle une charge mentale? C'est en tout cas le poids qui fait en sorte qu'on ne sait plus très bien pourquoi on est fatigué. C'est vrai, je ne sais plus exactement ce qui m'éprouve. D'un côté, on me dit que c'est moi qui dois changer pour atteindre mon plein potentiel. On oublie l'effet à long terme de vivre en société. Je pourrais reprendre mot à mot le constat d'Ishikawa Takuboku en 1910. J'ai beau me fournir toutes sortes de justifications, mon existence a bel et bien été sacrifiée à l'ordre familial, au système de classe, au capitalisme et à la commercialisation du savoir qui, actuellement, nous gouverne. De l'autre côté, ce n'est pas moi, c'est l'ordre qui doit changer. C'est lui qui m'a détourné de ce que je suis. Mais l'ironie de cette proposition est qu'elle renforce la dépendance de mon esprit au sien. Elle me charge du monde une autre fois pour le changer. Or, le poids, la charge, je l'ai accepté une première fois sans trop m'en rendre compte. Et maintenant, je peux la déposer, la vomir. Je peux en être libre. Je le suis probablement déjà. Un déchargement. Oui, bêtement. Étonnamment, cette même société ajoute à ma charge mentale une injonction. Vague emprunt au zen, version 70s, qui semble en mesure de l'abolir d'une seule parole. Faire le vide. Il faut croire qu'on est débordé pour vrai quand on cherche à se recharger les batteries auprès du vide. Au-delà de l'exigence du monde humain, derrière le décor ambiant, me dit « Allez, finis le rendement. Rends-toi. » On met de la musique pour ça, pour ne plus s'entendre parler. On espère que le fleuve prendra la place de soi-même pendant quelques instants. Alors, on y va? C'est qu'on n'a pas trop le choix. Le virus est entré chez nous. On ne peut pas aller dans les centres d'achat, au cinéma. On ne peut aller nulle part. Il nous reste la maison et dehors. Quand le confinement a frappé, je me suis dit « Bon, on ne peut plus se sauver. Il va falloir trouver un moyen de rester à la maison, d'être chez nous d'une manière inexpérimentée. » Je me dis la même chose en écoutant des êtres humains parler de s'implanter sur Mars. C'est une idée géniale, Mars. Tu commences par en rêver. Tu pars enfin. Tu découvres un autre sol. Tout tombe en farine rouge au toucher. Les années passent. Tu te mets à voir les images, en dormant. Tu les touches presque. Les images qui brillent dans la boue de toi-même. Les flashs de la vie terrestre. Et tu repars en sens inverse. Tu débarques à 85 ans sur une grève. Tu tombes amoureux du ciel gris. La pluie aura valu le voyage. Il est quand même étonnant d'habiter un monde où l'eau tombe du ciel de temps en temps. Il faudra trouver un moyen de rester dans ce monde-là d'une manière inexpérimentée. La question est de savoir à quel point il faut perdre le monde avant de le trouver. Ce qu'il y a de bien avec la grève de Lévy, c'est qu'elle est pleine de trésors en train de s'oxyder. Des écrous, des fourchettes édentées, des ressorts. À peu près tous les petits objets qui permettent à la civilisation de tenir debout sont là, rejetés par le fleuve. Ce matin, une pierre noire a attiré notre attention. Un fragment du monolithe géant dans 2001, l'Odyssée de l'espace, opaque, venu d'un autre monde. Un morceau de charbon? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as sauté d'un bateau à vapeur? As-tu eu la révélation de l'existence du fleuve? Mais oui, c'est bien l'éclat dispersé d'un autre monde. Il n'y a pas si longtemps, 200 ans tout au plus, quand on a inventé les premières machines pour pomper l'eau qui s'accumulait dans les mines de charbon. Depuis, l'humanité a explosé pour atteindre un niveau de perfectionnement inégalé. Et le charbon est toujours la première source d'électricité sur Terre. 40% du grand total. Un autre monde. Alors même que leurs contemporains passaient 16 heures par jour dans les mines, la première loi du travail limitait les journées à 16 heures pour les enfants, les gentilshommes aussi se sentaient la tête fatiguée et ils commencèrent donc à pratiquer des percées paisibles pour s'extraire un moment des mille et une demandes de la civilisation en formulant un souhait étrange. Et puis, ne rien faire, ne rien entendre, ne rien juger. J'ai trouvé ça dans un roman de Jules Janin de 1839. La conquête du vide, déjà. Maintenant, à peu près tout le monde, y compris les mineurs, a des conditions qui lui permettent d'entretenir le rêve absolu de ne rien faire. J'ai même croisé une pub de Arnois Énergie. 60 ans d'expérience en matière de produits pétroliers, où une mère, pendant que le père et les enfants, dans la fourgonnette, chantent une chanson pour écœurer le monde, entre dans un dépanneur et commence à flâner comme si elle disposait d'une réserve de temps infinie. Le caissier lui demande « vous voulez faire le plein? » Et elle répond évidemment, dans une extase épuisée, « Non, juste faire le vide un instant. Je ne les blâme pas. Je comprends. Je pressens même là un fond de vérité, un instinct plus primitif encore que l'instinct de survie et dont notre survie pourrait bien dépendre. On n'a pas vraiment les moyens de cette prise de conscience, devenue tellement banale qu'on la retrouve dans les pubs. Il faut bien continuer, continuer. » Mais par un curieux retournement civilisationnel, on entrevoit enfin. On sait qu'exister plus revient à exister moins. On ne sait pas exactement comment faire pour en faire moins. Mais sinon, on ne s'en sortira pas. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas une vie réussie autrement que comme une vie d'effort et de réalisation. On sait bien maintenant que ces gens ont tort. On soupçonne même qu'un arbre en train d'être un arbre en fin de journée est aussi le symbole d'une vie réussie. Un arbre ordinaire qui a probablement compris qu'un effort minimal suffit à créer de l'abondance et, quand l'hiver arrive, le rapport assez magnifique entre cette extrême abondance de graines dans le vent, de planètes dans l'univers, et tout ce qui décline se décompose ou reste mort. L'extrême rareté d'une éclosion de vie. La différence avec nous, c'est que cet arbre ne conçoit pas une croissance qui ne veut pas de la mort, qui voudrait ne jamais finir. Et son énergie, il ne la dépense pas à garder vivant quelque chose qui les détruit tranquillement. Lui et le monde. D'ailleurs, il n'est pas trop sûr de faire la différence entre les deux. Le contraire, ne voir que la différence, serait fatigant. C'est une banalité, mais il n'y a rien de plus fatigant que d'être en conflit avec sa propre source. Tout se recoupe, on dirait. finit par se ressembler. Je parlais de ma fatigue et me voilà en train de parler de la fatigue de notre monde entre deux mondes. Il faut croire que c'est un peu le même. La même énergie qui manque, la recherche d'une autre source, la forte intuition qu'elle est à découvrir dans le vide, l'état fondamental, comme dans 3001, l'Odyssée finale, They found it hard to imagine the smog-choked cities of the 20th century and the waste, greed, and appalling environmental disasters of the oil age. Au lieu de faire le vide autour de nous, en faisant le plein, on fera le plein avec le vide. Une source infinie pour un monde fini. Un autre monde. Alors, tous les conflits sur Terre seront résolus, toutes les menaces abolies, n'est-ce pas? Là encore, il faudra écouter les prophètes de malheur. Si nous pensons que la croissance, ou notre version de la croissance, est difficile à contenir avec des ressources limitées, imaginez quand nous construirons le monde à partir d'une énergie sans fin. Mais à ce moment-là de l'évolution, peut-être serons-nous vraiment pleins? Aurons-nous moins besoin de tout remplir? Le monde suffira enfin à la demande, car nous aurons écouté Guy de la Haye, le médecin de Nelly Gant. Quelqu'un avait eu un rêve trop grand. Les parents du futur diront sagement « Faites de petits rêves ». Exemple, rêver de ramasser un objet profond au bord du fleuve. Et les appelants que nous sommes ne voudront plus d'un autre monde. Ils feront comme Ernest Bilodeau et ses bons vieux arbres. Et notre monde aura fait place au monde. C'était « Conquérir le vide » par Vincent Lambert, paru à l'été 2022 dans la revue « L'Inconvénient ».
Reportage sans limite. Un texte de Damien Grapton, paru le 1er décembre 2022 dans le magazine Curium. Cadeau de vie. Bonne nouvelle. Depuis le 4 décembre 2022, Emma Québec a adopté une approche plus inclusive à l'égard des donneurs et donneuses de sang. Avant cette date, on refusait d'emblée tout homme homosexuel ayant été sexuellement actif au cours des 3 derniers mois. Cette exclusion est maintenant levée. L'admissibilité dépend du risque de chaque individu, peu importe son genre ou son orientation sexuelle. Toutes les 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec. Les hôpitaux comptent donc sur la générosité des donneurs et donneuses. Les principaux défis. La durée de conservation limitée des poches de sang et le manque de dons pour renflouer les réserves. Et si on fabriquait un substitut? La recette du sang. Du sirop de chocolat. Voilà la recette du faux sang au début du cinéma. La couleur contrastait alors parfaitement sur les images en noir et blanc. Aujourd'hui, le sirop de maïs s'est mélangé au colorant alimentaire pour un leurre parfait. Malheureusement, la recette n'est pas si simple en médecine. La recherche de substituts sanguins perdure depuis des siècles. Au XVIIe siècle, on transfusait même avec du vin ou du lait. N'essayez pas à la maison. Le sang se compose de plusieurs éléments. Chacun remplit des fonctions spécifiques et indispensables. Une seule goutte contient 5 millions de globules rouges qui transportent l'oxygène, 150 000 à 400 000 plaquettes qui aident à cicatriser les plaies. 7 500 globules blancs, 25 000 quand vous êtes malade, qui luttent contre les infections. Tout cela baigne dans le plasma qui transporte les nutriments. À défaut de savoir reproduire le sang dans sa globalité, les scientifiques se concentrent sur la fabrication indépendante de ses composants. La quête d'un substitut sanguin s'est ainsi divisée en deux domaines de recherche. 1. La production de substances 100% synthétiques. 2. L'exploitation de cellules souches pour produire de grandes quantités de cellules sanguines. Tous les composants sont sous la loupe, mais l'ultime Graal reste la fabrication de globules rouges artificiels. La difficulté? Les rendre aussi souples que les vrais. Les globules rouges sont les contorsionnistes de l'organisme. Ils peuvent se plier en deux pour circuler dans les capillaires les plus étroits. Pour contourner cette difficulté, certains laboratoires planchent sur une molécule de remplacement à l'hémoglobine capable de circuler dans le corps sans être contenue dans des globules rouges. L'hémoglobine assure le transport de l'oxygène. Pour le moment, les hémoglobines artificielles présentent souvent des risques pour la santé. Elles se dégradent également plus rapidement avant d'être éliminées par l'organisme. Les scientifiques poursuivent le travail. Berner les moustiques. En Suède, des scientifiques ont développé un sang synthétique capable de tromper les moustiques. Le liquide se compose de jus de betterave pour la couleur et de toxines pour exterminer les nuisibles. Le petit ingrédient secret? Une molécule normalement produite par le parasite du paludisme. C'est elle qui attire les moustiques. Peu dispendieux, ce faux sang remplace avantageusement les pesticides de masse nocifs pour les écosystèmes. Lire dans le sang. Inimitable, le sang donne accès à une mine d'informations qui ne cesse d'étonner les scientifiques. Les spécialistes s'intéressent particulièrement aux biomarqueurs, des molécules indiquant la présence de maladies. Leur objectif? Dépister un cancer ou une lésion au cerveau par une simple prise de sang. Traquer le cancer. Lorsqu'elles meurent ou qu'elles sont endommagées, les cellules libèrent leur ADN. De petites quantités de ce matériel génétique se retrouvent alors en circulation dans le sang. C'est la même chose pour les cellules cancéreuses. Dans ce cas, on parle d'ADN tumoral circulant. Depuis quelques années, les progrès dans les techniques de séquençage de l'ADN permettent de détecter et d'analyser cet ADN particulier. L'objectif? Développer des tests rapides pour dépister un cancer avant les premiers symptômes. Le test sanguin évaluerait ensuite l'efficacité des traitements tout au long du processus. L'ADN tumoral circulant diminue, la maladie régresse. Fouiller les poubelles. Pour bien connaître une personne, il suffit de fouiller ses poubelles. Même chose pour les cellules. Leurs déchets, appelés métabolites, sont relâchés dans le sang avant d'être recyclés ou éliminés par l'organisme. On ne vous fera pas un dessin. Or, les cellules malades produisent des déchets différents des cellules saines. En traquant ces métabolites anormaux, on pourrait détecter la présence de cellules cancéreuses dans le corps. Tomber sur la tête. Diagnostiquer une blessure cérébrale relève souvent du casse-tête. Une équipe américaine a mis au point un test sanguin pour faciliter l'évaluation médicale. Le test mesure une protéine libérée par les cellules cérébrales lors d'une commotion ou d'une lésion au cerveau après un choc à la tête. Plus sa quantité est grande, plus les dommages sont graves. Cette lecture du sang est moins invasive et moins dispendieuse que les biopsies et les techniques d'imagerie sophistiquées. Elle permettrait aussi des diagnostics plus rapides et des prises en charge plus efficaces. Apporter du sang neuf. Le sang des jeunes aurait-il des pouvoirs rajeunissants? les scientifiques ont découvert cette propriété étonnante grâce à des expériences dignes de Frankenstein. Les résultats montrent que l'état de santé des souris âgées s'améliore si on leur injecte du sang de jeunes souris. D'autres expériences ont révélé que le sang d'ado humain peut rajeunir la mémoire et la cognition de souris âgées. La fontaine de jouvence circulerait-elle dans les veines des plus jeunes? Voir rouge, le sang circule, s'émite aussi. Certains groupes sanguins attirent les moustiques. Faux! Certaines études ont suggéré que les moustiques sont plus attirés par les personnes ayant du sang de type O. Ces résultats ne font toutefois pas consensus et ils ne s'appliquent pas à toutes les espèces de maringouins. Les moustiques sont avant tout attirés par le dioxyde de carbone que nous expirons. Les plus susceptibles d'échapper aux piqûres sont peut-être les apnéistes. Sans oxygène, le sang est bleu. Faux. C'est l'hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Sa couleur est plus vive lorsqu'il est riche en oxygène, donc lorsqu'il circule dans les artères. Au contraire, le sang désoxygéné a une teinte plus foncée. Celui-ci circule dans les veines que l'on aperçoit à travers la peau. Il paraît bleuté, mais il n'est pas bleu pour autant. Merci à Nicolas Pinault, professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa et scientifique principal à la Société canadienne du sang, pour sa participation à cet article. C'était « Reportage sans limite », un texte de Damien Grapton, paru le 1er décembre 2022 dans le magazine Curium.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.